affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Nous allons, dans les minutes et durant l'heure qui vient, nous livrer un exercice de communication. Canal Académie est effectivement une radio, nous allons communiquer. La communication se trouve au cœur de nos activités sociales, bien sûr, à tel point que l'on considère désormais fréquemment que notre civilisation est une civilisation, sinon de l'information ou de la communication. Avec notre invité de ce jour, nous allons réaliser que la communication ne tient pas seulement à ses outils, ni même aux conversations que nous pouvons avoir avec nos semblables, mais qu'elle est en fait une sorte de phénomène total, allais-je dire, lié à l'existence même du vivant. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio pour une communication, une conversation et un échange, Joël Bockart. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Montpellier, spécialiste des mécanismes moléculaires des communications cellulaires. Vous avez fondé aussi l'Institut de génomique fonctionnelle et vous êtes bien sûr membre de l'Académie des sciences, tant et si bien que vous êtes ici chez vous. Et vous avez publié tout récemment aux éditions Odile Jacob un ouvrage titré « La communication du vivant » et dans lequel vous nous expliquez que... à contrario de ce que l'on croit parfois un petit peu rapidement et sans trop y réfléchir, la communication n'est décidément pas l'apanage d'Homo sapiens. Il va falloir descendre notre piédestal et observer et recevoir des informations de l'ensemble de notre environnement pour mieux communiquer avec lui, ou en tout cas de façon consciente. Est-ce bien cela ? Je suis vivant, donc je communique ?
Oui, tout à fait. Enfin, l'objet un peu de cet ouvrage, c'était d'élargir la perspective de la communication à l'ensemble du vivant. Se demander, bien entendu, au début, quand la communication commence, hein, elle commence au sein du règne vivant. Et par surprise, on a découvert il n'y a pas si longtemps, une vingtaine d'années, que les bactéries déjà communiquent. Et donc c'était un peu une surprise. Et voilà, donc déjà la communication commence là. Et puis, plus bien sûr l'évolution avance, plus les organismes deviennent complexes, arrivant comme chez nous à une quantité de cellules qui s'avoisine les 100 000 milliards de cellules. Et bien entendu, ces cellules ne peuvent coexister, assurer des fonctions coordonnées que en communiquant entre elles. Hein. Et puis aussi, il faut communiquer avec ses congénères, ne serait-ce que pour se reproduire, mais pour beaucoup d'autres choses. Et plus, bien sûr, l'évolution avance, et plus cette communication devient importante, jusqu'à, bien sûr, l'apparition du cerveau, des petits cerveaux d'abord, puis des cerveaux de plus en plus complexes, et le cerveau étant l'organe de la communication par excellence. Pourquoi cette communication a pris un tour aussi important et aussi rapide, hein, depuis la mise en place notamment d'Internet, téléphone portable, il y a à peu près 25 ans? Eh bien, c'est que, au départ, cette communication était un besoin de communiquer au sein de la même espèce, besoin de communiquer avec l'environnement. Et puis, petit à petit, cette communication est devenue probablement un vrai plaisir. Et on a plaisir à communiquer. Et à partir du moment où le plaisir apparaît dans une fonction, on sait très bien que ce plaisir tend à se renforcer, puisque quand ça fait plaisir, on recommence. Et visiblement, dans la rue, on peut voir... Que les gens communiquent sans arrêt dans la rue, chez eux, etc. Le temps passé à la communication avec les autres devient de plus en plus envahissant et ça ne peut s'expliquer que par le fait que ça fait plaisir de communiquer. Sinon, je ne pense pas que cet engouement serait aussi important. Donc c'est un vrai plaisir. Donc on a tout un mécanisme au cours de l'évolution d'augmentation et de renforcement des communications qui sont de plus en plus sophistiquées Jusqu'à, bien sûr, Homo sapiens, qui a ce cerveau absolument extraordinaire, qui, non seulement est l'organe de communication par excellence, mais se construit par la communication.
Oui, mais c'est un des points peut-être cruciaux de votre ouvrage, c'est de nous expliquer que tout être constitué est en fait un réseau de communication.
Voilà, c'est ça. D'abord, il faut, comme j'ai dit, faire... Quand l'organisme est un peu complexe, il y a des milliers, des millions, des dizaines de millions de cellules. Et donc, tout ça doit être finement coordonné. Et donc, les hormones apparaissent, les neurotransmetteurs apparaissent, etc., pour que tout ça soit bien coordonné. Et puis, le cerveau, hein, avec ses 100 milliards de neurones et ses 1 million de milliards de communications, c'est un organe qui se construit par la communication. Un cerveau, un enfant qui communique pas n'a pas un cerveau constitué, en gros. Hein. Voilà, les enfants sauvages sont là pour nous le dire. Sans communication, le cerveau ne se fabrique pas, parce qu'on fabrique un cerveau.
Donc, si je comprends bien, il sert à communiquer. Et par ailleurs, il se construit lui-même par la communication, voilà, ce qui, évidemment, ouvre des potentialités qui sont, si je comprends bien, infinies. Mais justement, pour repartir du démarrage, parce que c'est
oui, voilà. Ça, c'est le cerveau, le thème, le thème général. Voilà.
Voilà. Partons donc de ce qu'il y a de plus simple, la bactérie. Votre ouvrage s'ouvre sur la communication des bactéries, ce qui est à bien des égards l'aspect le plus surprenant, pour, certainement pour nos auditeurs, en tout cas, ça l'a été pour moi.
Alors bon, évidemment, donc ça a commencé avec, alors on peut raconter une petite histoire, parce que c'est assez amusante, par des bactéries qui sont présentes dans une poche ventrale d'un calamar hawaïen. Alors le calamar hawaïen, donc c'est un petit calamar qui se trouve dans les eaux peu profondes des lagons et qui chasse la nuit. Et la nuit, le ciel est étoilé et ce calamar produit une ombre sur le fond de ce lagon qui, bien sûr, le fait détecter par ses prédateurs. Alors, il y a eu un système d'échange entre ce calamar et des bactéries. Les bactéries qui rentrent dans une poche ventrale du calamar. Tout un mécanisme très, très complexe que j'essaie d'expliquer dans le livre, hein, qui est assez joli d'ailleurs. Et une fois cette bactérie dans cette poche ventrale, eh bien, la bactérie, au cours de la journée, va se multiplier. Et la nuit, elle va obtenir une concentration très importante dans cette poche. Et elle va échanger des petites molécules qu'on a bien isolées, purifiées, etc., qu'on connaît bien. Et quand la concentration de ces petites molécules est suffisamment élevée dans le milieu, ces molécules vont activer des gènes qui vont produire la luciférase, qui est une enzyme qui va faire de la lumière. Donc, finalement, la nuit, les bactéries vont faire de la lumière, et donc ça va faire une contre-lumière qui va empêcher donc l'ombre de se développer, et donc cette bactérie, dans le fond, protège le calamar camoufle le calamar de ses prédateurs en supprimant l'ombre. Alors, bien entendu, c'est une symbiose. Hein, le calamar donne à la bactérie de la nourriture. Hein, dans la poche, il y a des protéines, des acides aminés, etc., que la bactérie utilise. Et la bactérie, en retour, produit de la lumière. Et cette lumière ne peut être produite que si ces molécules de communication entre les individus, enfin les bactéries présentes dans la poche, sont assez nombreuses.
Donc c'est le point clé. C'est-à-dire que le point clé, c'est qu'il y a ces bactéries qui communiquent entre elles.
Voilà, elles communiquent, elles s'échangent ces molécules et elles vont réagir, elles vont avoir un comportement de fabrication de lumière que si ces molécules de communication sont suffisamment nombreuses dans le milieu dans lequel elles sont. Alors ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple plus médical, il y a deux exemples médicaux.
Qui est moins plaisant, je vous...
Voilà. Alors, deux exemples médicaux qu'on peut donner, c'est le staphylocoque doré. Vous savez que le staphylocoque doré, c'est la bactérie la plus répandue, hein, on en a tous sur nous, hein, responsable de beaucoup d'infections, furoncles, impétigo, éventuellement infections respiratoires, qui peuvent arriver jusqu'à la mort si l'individu est immunodéprimé, par exemple, donc une bactérie très importante. Et cette bactérie, elle va se multiplier quand il y a éventuellement une plaie, une infection, etc. Et c'est quand elle sera suffisamment nombreuse, encore une fois, que ces bactéries vont produire une molécule de communication et que quand cette molécule de communication sera suffisamment dense, concentrée, là, des gènes de virulence vont être produits. Donc, le staphylocoque doré ne devient virulent que s'ils sont assez nombreux.
S'ils pensent pouvoir l'emporter.
Voilà.
Donc, il a une intelligence déjà presque sociale.
On va attaquer que si on est suffisamment nombreux pour attaquer. Ce n'est pas la peine de produire des toxines si on n'est pas suffisamment nombreux parce que ça ne sera pas productif. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est les biofilms. Vous savez que les bactéries peuvent se protéger sous une espèce de carapace, si on peut dire, qu'elles fabriquent. Ça, c'est très, très, très important dans les hôpitaux parce que ces bactéries se mettent dans les cathéters sous un film, un biofilm qu'elles fabriquent. Et cette fabrication des biofilms ne peut se faire que si, encore une fois, les bactéries sont assez nombreuses. Donc voilà un exemple extraordinaire parce que là, il y a une coopération pour avoir une fonction de coopération. La coopération est déjà inventée par la bactérie. Les bactéries coopèrent pour faire un certain nombre de choses qu'elles ne peuvent pas faire toutes seules. Elles s'entraident, dans le fond, avoir des propriétés nouvelles. Et donc ça, c'est des exemples intéressants, bien sûr.
Alors, comment communiquent-elles ?
Ben, elles se communiquent justement en sécrétant ces molécules
dans le milieu. Donc c'est une communication chimique.
Ah, c'est une communication chimique, totalement chimique, oui, tout à fait. Comme la plupart des communications.
Oui, alors justement,
pas
venons.
Toutes, mais voilà.
Alors, y a-t-il d'autres types? Parce que c'est vrai que quand on parle de communication aujourd'hui, moi, si je parle de communication à mes enfants, ils vont me réclamer
un
téléphone portable ou une tablette.
Voilà.
Si je parle de communication à un acteur, il va me parler du timbre, des modulations de sa voix.
Voilà.
C'est certain.
Voilà.
Si je parle à un mime, il va me parler de l'expression corporelle ou un danseur.
Oui.
Lorsqu'on s'adresse à un spécialiste de la communication moléculaire, à quelle communication pense-t-il? En premier,
on pense à la communication chimique, parce que c'est la communication probablement la plus répandue. Hein. C'est celle que chacun connaît, hein, les hormones. Les hormones permettent donc la communication au sein justement de l'organisme. Hein. Donc les hormones sont sécrétées par une glande. Et puis vont moduler un certain nombre d'organes, à la périphérie, un peu plus loin, disons, et pour coordonner tout ça, sécréter des hormones, d'autres hormones, par exemple, ou utiliser le glucose dans le sang, comme l'insuline, etc. Donc, ça, c'est une communication par les hormones, très, très connue. Une autre communication chimique très connue et très intéressante, au cours de l'évolution, ont été les phéromones. Les phéromones dont on pourra éventuellement reparler, parce que c'est très belle communication, qui a disparu chez l'homme, d'ailleurs. Les phéromones ont disparu chez l'homme. C'est intéressant aussi de savoir, et savoir éventuellement pourquoi. Et puis, après, il y a les neurotransmetteurs dans le cerveau. Hein. Notre cerveau, c'est un problème. Ça fonctionne qu'avec des communications chimiques, hein, ces neurotransmetteurs que chacun connaît, plus ou moins l'adrénaline, la sérotonine, mais beaucoup d'autres évidemment. Et donc c'est des communications chimiques les plus importantes, avec l'extérieur bien sûr, la communication par les odeurs. Donc ça c'est communication chimique. Mais en dehors des communications chimiques, il y a les communications physiques. Alors ça, elles sont aussi très très primaires, hein, très inventées dès l'apparition de la vie. Par exemple, la communication par le champ magnétique. Donc, le champ magnétique, bien sûr, c'est une donnée physique primaire qui a existé pendant la formation de la Terre. Et les bactéries, déjà, un certain nombre de bactéries ont la possibilité de suivre une force de champ magnétique pour se déplacer. Elles ont pour cela des petites concrétions magnétiques qu'on appelle la greguite ou la ferritine qui leur permet de, bien sûr, comme un aimant, de suivre les lignes. Et qu'on sait plus ou moins, on sait bien maintenant que, par exemple, les oiseaux, notamment les pigeons, hein, se dirigent grâce au champ magnétique. Donc ça, là aussi, dans le bec des pigeons, il y a des petites concrétions de greguite ou de ferritine qui leur permet de suivre effectivement le champ magnétique terrestre. Et puis d'autres molécules qu'on appelle les cryptochromes qui sont aussi importantes pour la navigation par les pigeons. Donc déjà, le champ magnétique. Et après, bien sûr, on a grande communication par le son, les vibrations. Hein, les vibrations, beaucoup d'animaux utilisent des vibrations communiquées. Hein. Je donne l'exemple de la cigale, bien entendu, qui est un exemple très connu. Le mâle, pour attirer donc, la femelle, chante tout l'été. Voilà une communication par son, mais il y a aussi beaucoup de communication par vibration. Et puis après, on a la lumière. La lumière qui est un moyen de communication, hein, le ver luisant, qui est la femelle qui attire le mâle avec cette petite lanterne au niveau de l'abdomen, qui s'éteint d'ailleurs quand le mâle arrive. Donc c'est une petite belle histoire. Et puis beaucoup d'animaux communiquent comme ça par la lumière. La lumière qui nous permet aussi, nous, de communiquer avec l'extérieur, hein, de voir. Hein. Donc c'est une communication là, pas entre deux êtres vivants, mais la communication qui est aussi très importante entre un être vivant, nous, mais aussi beaucoup d'animaux, et le milieu environnement, donc la lumière. Donc la lumière, c'est très important. Et puis, la communication chez beaucoup d'animaux, et notamment chez l'homme, qui est extrêmement importante, c'est le toucher. Communication physique, évidemment, par excellence, le toucher. Le toucher est fondamental pour la communication chez l'homme. Hein. C'est d'ailleurs le premier sens qui est développé chez le fœtus. Le fœtus qui, à partir de 6 mois, 7 mois, ressent le toucher. Donc c'est très important déjà avant la naissance, mais à la naissance, évidemment, le toucher est fondamental pour le développement du bébé. Et puis, tout au long de la vie, la caresse, bien sûr, pour les relations amoureuses, etc. Et même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les moments dramatiques, les gens se touchent. Hein, aux enterrements, on touche les gens, on les embrasse, même si on ne les connaît pas, on se serre, etc., dans les moments dramatiques. Donc le toucher est très important et très sophistiqué, le toucher d'un point de vue physiologique. Hein. Bon, j'ai décrit un peu ça dans le livre, il y a des tas de récepteurs pour sentir. On peut remarquer que vous n'avez pas besoin de... Si une goutte d'eau tombe sur votre main, vous savez que c'est une goutte d'eau. Si c'est un insecte, je suppose, c'est un insecte. Donc tout ça, bien entendu, si vous le savez, c'est que vous n'avez pas besoin de le voir. C'est que tout ça est bien détecté, bien catégorisé, bien répertorié. Voilà, la communication physique est très importante, bien sûr. Et puis, l'homme a inventé, comme vous le disiez au début, cette communication physique par ondes électromagnétiques, la radio d'abord, le téléphone, et puis...
Voilà, mais qui toutefois quand même sert plutôt de support à des formes de communication qui préexistaient.
Oui, bien sûr.
C'est pas une radicale nouveauté tout ça finalement, ce sont des instruments qui viennent renforcer des choses qui préexistaient quand même.
Oui, tout à fait.
C'est pour atténuer un peu le...
Oui, peut-être pas quand même les ondes électromagnétiques, c'est quand même une invention quand même de humaine, ça. Bon, effectivement, les conditions physiques, l'ultrason, par exemple, le radar a été inventé, composé par un certain nombre d'animaux, la chauve-souris, etc., qui utilisent le radar. Hein. Et donc, beaucoup de choses ont été effectivement copiées, d'autres ont été un peu plus inventées, un peu plus élaborées, bien sûr.
Alors que la communication, la première, puisqu'elle est liée au vivant, donc lorsque le vivant apparaît, la première, si j'ai bien compris, c'est la communication chimique.
Chimique, hein, oui, c'est la première.
Et qui persiste. Alors j'ai bien compris que cette communication chimique permettait avant tout une communication interne aux espèces, ou par exemple au corps humain, qui lui permettait de fonctionner. Mais ce que vous nous expliquez, c'est que ça va bien au-delà. Parce qu'effectivement, quand on dit hormones, effectivement, ça sert à coordonner, gérer notre propre corps, notre propre espèce, qu'on aussi communique entre nous, mais c'est bien plus vaste. C'est-à-dire que quelles sont les interactions avec l'ensemble de l'environnement, y compris d'ailleurs chez les bactéries. Ce que j'ai découvert avec surprise, c'est que les bactéries non seulement communiquent entre elles dans la même espèce, mais peuvent même communiquer avec d'autres espèces de bactéries, ce qui est un peu inquiétant d'ailleurs.
Oui, il y a des exemples assez récents d'ailleurs qui ont été décrits de communication par tunnel. Je pense que c'est ça peut-être auquel vous faites allusion. Oui. Donc des espèces de micro-tunnels qui se forment entre des bactéries de la même espèce ou éventuellement d'espèces différentes. Et ces petits tunnels peuvent véhiculer effectivement un certain nombre de gènes, éventuellement de protéines, de résistance par exemple aux antibiotiques ou autres. Et donc c'est un aspect un peu nouveau de ce type de communication chez les bactéries. oui, qui est peu connu, mais qui est bien décrit, qui va sûrement être analysé plus avant. Oui.
Et qui leur permet là aussi d'assurer davantage leur survie, si je comprends bien.
Oui, parce que si elles échangent des protéines de résistance aux bactéries ou des systèmes de résistance aux bactéries, bien sûr, ça leur permet de survivre. Et si, pour terminer peut-être sur les bactéries, mais bon, il y a aussi quelque chose que je dis dans le livre et qui est maintenant bien connu, et qui est extraordinaire quand même, c'est que un certain nombre de bactéries ont des récepteurs, des molécules de membranaires, qui sont pratiquement identiques aux molécules réceptrices qu'on trouve dans le cerveau, et notamment, enfin, dans le cerveau humain aussi, mais pas aussi des animaux. Donc on a déjà là pratiquement les mêmes protéines qui, tout au long de l'évolution, ont été un peu transformées, bien sûr, ont été bricolées, hein, comme disait François Jacob, bricolées, mais elles sont déjà là. Donc en fait, on s'aperçoit que finalement, cette évolution recycle ces molécules, les transforme un peu, les modifie, etc. Et donc, voilà, ce récepteur, des récepteurs, par exemple, les récepteurs de GABA, qui est un neurotransmetteur du système nerveux central, bien, on le trouve pratiquement à l'identique chez les bactéries. Donc là aussi, c'est assez sidérant, quoi, de voir que ces molécules très importantes pour nous sont déjà pratiquement là chez les bactéries. Certaines bactéries, en tout cas.
En parcourant l'ouvrage, en allant du plus simple au plus complexe, comme vous l'avez dit, on a un peu le sentiment, ce qu'on peut aussi placer d'ailleurs sur une échelle de temps, depuis la soupe initiale jusqu'à aujourd'hui, que la communication est en quelque sorte une sorte de placée au cœur du principe d'évolution,
oui.
À la fois peut-être
le
moteur et le moyen.
Voilà, sans communication, il n'y aurait pas eu. On ne peut pas imaginer l'évolution sans communication. Il y a la communication, comme on l'a dit, avec ses congénères de la même espèce, notamment pour se reproduire. Il faut bien trouver son conjoint, si on peut dire. Mais aussi, comme j'ai dit un peu déjà tout à l'heure, sitôt que les organismes deviennent complexes, dizaines, milliers, centaines de milliers, millions de cellules, il faut bien que ça, cette communication entre toutes ces cellules soit organisée. Sinon, ça serait un amas sans cohérence de fonction. Et donc, voilà, si on veut avoir des organismes complexes, eh bien, il faut que la communication se développe et devienne de plus en plus complexe aussi.
Oui, mais on a presque l'impression que ce serait le raisonnement, c'est les organismes deviennent complexes, donc il faut de la communication, oui. Mais est-ce qu'ils ne deviennent pas complexes parce qu'il y a de la communication ?
Ah ben oui, bien sûr, parce que ça va de pair en général.
Tout va ensemble.
Tout va ensemble. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est la coïncidence des deux qui fait l'évolution, d'ailleurs. Bon, à partir du moment où une fonction peut être produite, sélectionnée par l'évolution, bien sûr, ça va permettre de faire un certain nombre de nouvelles fonctions. Et ces nouvelles fonctions vont pouvoir permettre de faire de nouvelles choses. Et petit à petit, la complexité de ces organisations vont faire que l'évolution prend des formes différentes et s'adapte au milieu, bien sûr, et dans lequel les organismes vivent.
À partir du moment où on voit la communication partout, et il y en a partout, où on constate que finalement, comme vous le disiez, que la façon de communiquer des bactéries peut s'apparenter à la communication qui existe dans les cellules de notre cerveau. On a l'impression que la frontière quand même entre l'humain et ce qui n'est pas humain se brouille encore.
Oui,
d'ailleurs,
oui.
Vous en venez à poser cette question, et je vous la pose donc. Qu'est-ce que l'humain dans ce vaste univers où finalement tout le monde communique ?
Voilà, donc oui, effectivement. Bon, alors d'abord, disons, enfin, une chose que j'essaie d'expliquer dans le livre aussi, c'est que tout ce qui est présent chez l'humain, on va dire différemment, pratiquement tout ce qui est présent dans l'humain, bien sûr, apparaît progressivement au cours de l'évolution. Il n'y a pas une fonction complexe du cerveau humain, puisque c'est quand même l'organe le plus complexe, il n'y a pas une fonction du cerveau humain qui apparaît tout d'un coup chez l'humain. Bon, c'est normal, l'évolution, c'est une adaptation progressive, etc. Alors, il y a des ruptures, il peut y avoir des ruptures, hein, et probablement l'homme est quand même une rupture dans la communication. Et cette rupture, c'est quand même le langage qui est vrai, une vraie rupture par rapport aux autres animaux. Et les animaux les plus proches de nous, c'est-à-dire les grands singes. Les grands singes ont beaucoup de choses très sophistiquées qu'on a. Hein, les grands singes, bon, je parlerai peut-être tout à l'heure de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire...
Non, non, mais il faut en parler tout de suite.
Oui, bah, la théorie de l'esprit, c'est la capacité qu'on a à deviner ce que pense l'autre, ou se mettre dans la tête de l'autre, hein, donc, qui est indispensable pour la communication. Parce que si je n'arrive pas à penser rapidement ce que vous pensez dans la conversation ou dans nos interactions, ça va être un problème.
Notre émission va devenir décousue dans ce cas.
Voilà. Et les grands singes ont déjà cette capacité de la théorie de l'esprit. Bon, alors, moins développée que la nôtre, mais l'ont déjà. Donc, ils ont beaucoup de choses. Et donc, on n'est pas exceptionnel. Il reste quand même le fait où on est un peu exceptionnel. On est exceptionnel, il faut le dire. Et qui nous a permis probablement de surpasser dans le bien ou dans le mal hein, beaucoup d'autres espèces et de devenir l'espèce dominante, tu veux bien le dire, c'est le langage. Là, le langage, c'est vraiment une rupture. Une rupture parce que, comme vous le savez, on a pensé longtemps que finalement, le chant, les sons, etc., pouvait servir à communiquer via une espèce de proto-langage. C'est vrai que ça existe. C'est vrai que ça existe chez les oiseaux, ça existe chez les grands singes, qui peuvent passer des messages par les sons, par la vocalisation, mais c'est relativement limité. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec notre langage complexe qui nous permet de, bien sûr, faire des tas de choses, d'être très, très fin dans notre expression, de communiquer à grande échelle, et puis de raconter des histoires, de raconter notre passé, d'imaginer notre futur. Ça n'existe que chez l'homme. Quoi.
Bon. Oui, la différence n'est pas d'ordre quantitatif. Pas une différence de niveau, c'est une véritable rupture.
Dans le langage, il me semble en tout cas que c'est une véritable rupture. Quoi. Alors on a essayé, il y a eu des tas d'expériences où on a essayé de prendre des scientifiques qui ont pris des chimpanzés, ils les ont élevés avec leurs enfants pour voir si, en disant finalement c'est peut-être parce que le chimpanzé n'est pas entouré de langage qu'il apprend pas.
Tout serait culturel.
Voilà. Et bon, ça a été un échec. Bon, après, avec un bonobo, d'autres ont essayé de lui faire parler, si on peut dire, mais par signe ou par symbole. Là aussi, c'était un échec. Et donc là, il y a vraiment une rupture.
Est-ce que cette rupture, on la trouve est-ce qu'on peut l'observer dans le fonctionnement du cerveau? Est-ce que notre connaissance va au-delà de l'empirique en la matière?
Oui, enfin, oui, bon, non. Oui, bon, il y a des zones, effectivement, associées au langage qui semblent être associées, effectivement, plutôt à des zones de motrices. Et d'ailleurs, on pense que le langage ne vient pas de l'homme, enfin, le langage ne vient pas d'une évolution du son, des chants, des oiseaux, ou des sons émis par les chimpanzés, mais vient d'une capacité motrice qui aurait été modifiée en faveur du langage. Et d'ailleurs, on parle avec les mains, hein, on parle encore avec les mains.
Même à la radio, on parle avec les mains.
Et ce qui est très surprenant et très intéressant, c'est que les sourds-muets qui apprennent le langage des signes n'ont aucun retard cognitif. Les enfants se développent tout à fait normalement par les langages des signes. Ce qui prouve que, bon, on peut remplacer le langage, dans le fond, par un langage des mains.
Mais ce langage des mains est lui-même issu du langage articulé.
Voilà, exactement. Mais quand même, bon, les bébés montrent du doigt, hein, et c'est d'ailleurs très important pour leur développement cognitif, montrer les choses, etc. Pourquoi on en était capable, effectivement, de parler? C'est un grand mystère. Alors, comme raconte soit dans le livre, et c'est quelque chose qui est maintenant très connu, on a cru à un moment donné, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, 25 ans peut-être, avoir découvert le gène du langage, puisque c'est un gène qui s'appelle le gène FOXP2, qui a fait grand bruit, etc., qui fait encore un peu de bruit d'ailleurs. Et pourquoi on a pensé que c'était le gène du langage ? C'est qu'on a trouvé des familles dans lesquelles il y avait vraiment des problèmes de langage, et ces familles avaient une mutation dans ce gène, il y avait plusieurs familles. Et on s'est dit, tiens, voilà, puisque quand ce gène est muté, les gens ont de grandes difficultés à parler, à avoir un langage correct, c'est probablement le gène du langage. Alors bon, il s'avère que c'est probablement pas le gène du langage. Du part, il existe chez toutes les espèces. Et donc, c'est probablement un des gènes importants du langage, mais pas l'unique. Il n'y a jamais un gène, une fonction. Hein, bon. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant quand même, et très, très, très intriguant, c'est que quand on regarde l'évolution de ce gène, on s'aperçoit que à la séparation entre les grands singes et la lignée humaine, c'est-à-dire il y a 10 millions d'années, hein, entre les bonobos, les chimpanzés et les hommes, la lignée humaine, qui se termine par Homo sapiens, Néandertal, on s'aperçoit que là, après cette séparation, deux mutations de ce gène sont apparues, donc spécifiquement dans la lignée humaine. Et par les expériences chez la souris, on a pu montrer que ces deux mutations changent assez importante la fonction de ce gène. Et même, il y a une petite autre modification qui est apparue entre Homo sapiens et Néandertal. Alors certains ont dit, bien peut-être que Homo sapiens parlait beaucoup, avait un langage beaucoup plus sophistiqué que Néandertal. Et peut-être pour ça qu'ils ont supplanté Néandertal. Bon, on n'en saura jamais, bien sûr. Il n'empêche que ce gène est très très important. Et alors il est peut-être plus important d'ailleurs dans l'aspect moteur du langage, parce qu'en fait le problème aussi des chimpanzés, des bonobos, enfin des grands singes, c'est qu'ils ont des problèmes de larynx, ce qui leur fait qu'ils n'arrivent pas à articuler comme nous. Donc, mais c'est pas uniquement ça, c'est que en fait la possibilité grammaticale, du lexique, etc., de la phrase complexe, etc. Bon, ben voilà, ça paraît que chez l'homme, quoi. Voilà. Et ça, c'est un avantage sélectif extraordinaire. Hein.
Dans la mesure où le cerveau et le fonctionnement est aussi issu de la pratique, est-ce qu'on ne peut pas penser, je creuse l'hypothèse, hein, que c'est par sa capacité à pouvoir articuler de nombreux sons qui aurait transformé aussi et modelé ce cerveau?
Ah oui,
parce que c'est
oui,
absurde.
Oui, non, ce n'est pas absurde du tout. C'est que, oui, c'est possible. C'est-à-dire que, bon, dans le fond, c'est un peu ce qui se passe, parce que, par exemple, si on prend un enfant. Comme je disais tout à l'heure, un enfant qui serait élevé tout seul, hein, les enfants sauvages, hein, Victor de l'Aveyron, un des plus connus, non seulement s'ils ne sont pas entourés et qu'ils n'apprennent pas à parler, s'ils sont entourés de personne, non seulement ils ne vont pas parler, ou mal parler, etc., ou ne rattraperont jamais ce retard de langage, mais ils auront des problèmes cognitifs. Ce qui, bien entendu, va un peu dans votre hypothèse, c'est-à-dire que à partir du moment où le langage est là, il peut aussi, bien sûr, contribuer à la fabrication du cerveau. Et voilà, cette fabrication étant le résultat d'une communication avec l'environnement, le langage participant à cette communication, le langage influe sur la construction du cerveau. Voilà.
Alors justement, le fait que désormais un grand nombre d'outils extérieurs, mais après tout, le livre, pour dédramatiser, le livre en est un. Les bibliothèques sont aussi des outils extérieurs,
bien sûr.
Et des mémoires extérieures. Oui. Mais les nouveaux outils dont on parle, téléphone portable, ordinateur, tablette, totalement omniprésents dans notre environnement, est-ce qu'on ne peut pas craindre ou se féliciter? Je ne sais pas, on verra quelles seront les évolutions, mais est-ce qu'il ne faut pas être davantage attentif à une éventuelle modification non seulement de nos habitudes, mais du coup du cerveau lui-même et de la façon dont il se modèle raison de ces nouveaux usages.
Oui, ouais, ça c'est sûr. Je veux dire, ça. Alors par contre, là, sans avoir d'exemple, enfin il y a un exemple apparemment, mais sans avoir d'exemple très très précis, on peut très très bien prédire qu'effectivement, le cerveau de nos enfants ou petits-enfants seront différents des nôtres. Ils sont probablement déjà. déjà parce que, comme on dit, le cerveau se fabrique, et que à partir du moment où la fabrication est différente, l'objet final est différent. Donc nécessairement, voilà, nos enfants, nos petits-enfants auront des cerveaux différents. Bon, notamment, il y a plusieurs exemples déjà. C'est-à-dire que, bon, apparemment, tous ces jeux vidéo pour lesquels on est assez incompétent, enfin, en tout cas, pas très très bon, bien eux, ils sont très bons. Donc il y a toute une mécanique de rapidité de décision, de coordination, etc., dans la décision entre, bon, qui est différente. Et puis, bien entendu, le fait de passer beaucoup de temps sur ces réseaux, bien sûr, va peut-être développer d'autres types de sentiments, d'émotions, etc. Pour le bien, peut-être pour les aspects moteurs décisionnels dans les jeux vidéo, peut-être un peu délétère pour l'aspect concentration, réflexion.
Et peut-être la mémorisation, sinon.
Mémorisation, puisque, bon, c'est vrai qu'on le voit chez les étudiants. Hein. On voit déjà chez les étudiants un certain refus d'apprendre, sous prétexte que bien on peut avoir toutes les informations sur tous les réseaux, etc. Et donc, bon, pourquoi apprendre ça ça ne sert à rien, puisque je l'ai dans n'importe quel site web, etc. Or, bon, quand même, on sait très bien que la pensée, la réflexion, le raisonnement se fait essentiellement par la mémoire biologique. Vous pouvez pas faire sans arrêt dire tiens, je vais avoir un raisonnement ou une pensée un peu complexe en tapant tous les mots de Wikipédia ou en allant voir sur le net. Il faut déjà...
On ne peut pas assembler des données dont on ignore l'existence. Oui, ça, c'est
en
certain.
Plus, voilà. Donc il faut déjà avoir une trame bien construite dans sa tête, et là, ça devient très, très intéressant, ces outils. Ça devient même extraordinaire, parce que je crois qu'il y a plus de 500 000 bibliothèques nationales sur le web. On peut atteindre pratiquement tous les livres qu'on veut. Mais il faut déjà avoir une architecture. Voilà, c'est une architecture. Et ça, c'est très important, l'architecture. Et ça, c'est un petit problème. Donc là, si les enfants ont une mauvaise architecture au départ... Bon, comme on dit toujours, moi je dis aux étudiants, enfin ils me sortaient souvent, enfin, il vaut mieux, Montaigne a dit, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. En fait, Montaigne, c'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Hein. Il voulait pas dire, il faut rien apprendre, mais il faut avoir simplement une intelligence supérieure, si on peut dire. En fait, il disait, il faut une tête bien faite. Après avoir appris, la tête bien faite nous permet de réfléchir sur ce qu'on a appris. Donc il ne faut pas simplement apprendre, il faut aussi avoir une tête bien faite pour réfléchir sur ce qu'on apprend. C'est ça que vous voulez dire,
Mathieu. Oui, vous ne
voulez
pas
dire on n'apprend rien, et voilà, on n'apprend rien, mais ensuite...
Restons vierges, voilà. Toute connaissance, ça nous aidera à être spontané.
Donc là, c'est un petit travers. Bon, il y a plein d'autres travers. Hein. On s'aperçoit que les raisons sont multiples, mais que le QI diminue, hein, de par le monde. Hein. De par le monde, le QI diminue. Alors qu'il ne cessait d'augmenter. Alors bon, parce qu'il peut-être diminue, plusieurs raisons.
Hein, oui, mais diminue depuis 20 ans, c'est ça?
Oh, un peu moins, je crois.
Un enfin
bon,
ouais,
une ça dizaine d'années, une dizaine d'années, ouais, quinzaine d'années, oui, tout à fait, oui. Oui, mais bon, il peut y avoir d'autres raisons, hein, il ne faut pas non plus...
Oui,
les corrélations ne sont pas raisons. Il peut y avoir d'autres raisons.
Enfin, ça vaudrait la peine de faire des études complémentaires, quand même.
Mais,
est-ce que c'est le cas, d'ailleurs?
Ce qui est vrai quand même, c'est bon, ça aussi des études récentes, hein, c'est que l'ignorance augmente. L'ignorance augmente de par le monde.
Donc l'ignorance qui est autre chose que le QI, on est bien d'accord. Hein,
c'est l'ignorance, c'est-à-dire...
C'est le niveau, c'est la tête bien pleine.
Voilà.
Donc la tête est moins pleine et le QI, c'est plutôt la capacité à...
Oui, exactement. Exactement. Mais bon, l'ignorance augmente aussi, voilà, parce qu'on ne peut pas passer... Les Américains passent 11 heures par jour devant des écrans. Alors, les écrans sont peut-être des fois éducatifs, mais souvent ils sont quand même ou ludiques ou inutiles, en tous les sens du terme. Et donc, ça prend du temps. Et si on passe du temps là-dessus, on ne passe pas du temps à éventuellement faire autre chose. Bon. Donc, il y a quelques problèmes. Après...
Oui, mais c'est-à-dire que la promesse initiale qui était celle... Et qu'on nous oui. Notion, vous oui, dans ce studio, d'une mise à disposition de l'ensemble des savoirs à portée de clic pour tout le monde, démocratisé, horizontal, ne se vérifie pas dans les faits, au contraire.
Ouais,
enfin, si le niveau de connaissance baisse.
Alors bon, il ne faut pas non plus être trop et éventuellement trop négatif, mais il est clair que ça pose des problèmes. Donc, comme toute révolution, c'est une révolution, hein, ça c'est sûr, c'est communication par Internet, téléphone portable, numérique, quoi. C'est une vraie révolution. Comme toute révolution, il peut y avoir des problèmes. Et parmi les problèmes, effectivement, c'est ceux qu'on a listés. Plus, bien sûr, d'autres problèmes d'exposition à sa vie personnelle, bon, plus les fake news dont on parle beaucoup, etc. Puisque, après, il faut trier. Et dans toutes ces communications, informations, le tri n'est pas facile à faire. Et donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, des problèmes. Alors, le cerveau sera différent. Il sera peut-être mieux, d'ailleurs. Hein, on ne sait pas. Hein, on verra bien. Finalement, la manière dont on mesure le QI n'est peut-être plus la bonne. C'est aussi une autre question. Peut-être qu'il faudrait avoir d'autres paramètres. Donc, on ne sait pas. Mais il sera différent, ça, c'est sûr. Voilà.
Vous donnez quand même aussi une information que je trouve absolument sidérante et qui tente à laisser penser que les patrons des grandes entreprises du numérique, américaines du numérique, ne souhaitent pas que le cerveau de leurs enfants soit différent, puisqu'ils les mettent dans des écoles sans numérique, sans écran. Sans tablette, sans outils numériques pour l'apprentissage.
Oui, les GAFA mettent leurs enfants dans des écoles hors numérique. Oh ben, il n'y a pas que ça. Vous savez, même ces derniers jours-là, on a lu que les anciens, beaucoup d'anciens au cadre de Facebook, de Twitter, ont dénoncé la manière dont ça a été réfléchi, ces réseaux sociaux, qui étaient une manière de... Bah un peu comme TF1, hein, à l'époque, c'est de vendre du temps cerveau, c'est-à-dire du temps de la publicité, etc., en affaiblissant la réflexion de ceux qui se connectent, etc. Et donc c'était vraiment penser de cette manière. Et d'ailleurs, ils ont créé ce qu'on a chez Google, des cadres qui sont dont la fonction c'est d'être philosophe produit. Donc c'était philosophe produit, c'est-à-dire comment on vend les produits, mais d'une manière réfléchie, comme un philosophe pourrait le faire. Donc c'est pas anodin. Et donc effectivement, les GAFA mettent leurs enfants dans des écoles sans numérique. Et puis là, récemment, encore, Facebook, etc., ils ont commencé à réfléchir sur les conséquences de leurs outils.
Oui, enfin, sont surtout des cadres démissionnaires qui réfléchissent aux conséquences et qui portent la question sur la place publique.
Les actionnaires aussi. Oui. Les actionnaires, apparemment, de Twitter, de Facebook, ont commencé à poser des questions sur... parce qu'ils ont peur aussi qu'éventuellement ça se retourne contre l'entreprise dans laquelle ils ont investi. Donc, tout ça, c'est des boucles de rétroaction. Ceci dit, on n'ira pas en arrière, ça c'est sûr. Et ce n'est pas nécessairement souhaitable, mais il faut y réfléchir. Voilà.
On a quand même un petit peu le sentiment, c'est-à-dire que dans l'ouvrage, y compris dans d'autres types de communication, c'est l'un des grands charmes de l'ouvrage, de nous faire réfléchir à la communication. Comme vaste phénomène global, que ces communications de type Internet, par un jeu d'analogie, font un petit peu penser à ce que vous appelez dans la communication chimique ou autre, des communications spontanées, mais qui ne sont pas conscientes. C'est-à-dire qu'on pourrait presque faire une analogie entre ces communications numériques par le réseau mondial avec ces communications inconscientes qui sont présentes dans le vivant. Alors que précédemment, si je prends par exemple l'exemple de l'instruction publique, c'est une communication et une transmission des savoirs qui est consciente, pensée, maîtrisée. Oui. Alors qu'ici, pas vraiment, en tout cas pas pour le commun des mortels. Est-ce que cette analogie est valable ?
Oui, je ne sais pas si ça fait allusion, mais c'est vrai que je parle un peu du... ce qu'on sait maintenant, c'est que la plupart de ce que fait le cerveau est inconscient. D'accord. Donc ça, c'est un aspect qui est un peu surprenant dans un premier temps. On dit, mais attendez, moi j'ai un cerveau, je sais ce que je fais. Là, si je suis en train de parler, c'est que je sais très bien ce que je dis. Et en fait, non, la plupart de ce qu'on fait est inconscient. La partie consciente est vraiment le petit sommet de l'iceberg. Alors on peut donner des tas d'exemples, hein, mais c'est inconscient, mais c'est quand même notre cerveau qui le fait. D'accord ? Donc, c'est notre cerveau, il a été construit. Il a été construit différemment. Le vôtre a été construit différemment du mien. Et du coup, bon, voilà, on ne va pas avoir les mêmes propos, les mêmes idées, le même langage, etc.
C'est ce qui fait que je pose les questions et que vous apportez les réponses.
Oui, voilà. Et on peut donner un exemple, d'ailleurs, que je donne souvent aux étudiants ou autres, et qui est surprenant. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, quand je parle en ce moment, si je fais des phrases, je ne les fais pas consciemment, ces phrases. Je ne dis pas, je fais un verbe, un sujet, un complément, je les construis comme ça. Non, j'ai une idée, j'ai envie de dire ça, et mon cerveau se met à ma disposition pour le dire. Parce que la conscience, et Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux l'ont bien montré, c'est un phénomène très lent. Les événements conscients, d'abord, prennent tout le cerveau. On n'a qu'une chose consciente à la fois. Et donc, prennent du temps, c'est 300 millisecondes, etc. Et donc, en fait, on n'a pas le temps consciemment de dire, tiens, je vais le dire comme ça, ou je vais le dire... Je ne peux pas, je n'ai pas le temps de dire, tiens, je vais répondre à la question comme ça. Bon, quand vous posez une question, bien sûr, mon cerveau consciemment l'a entendu. Mon cerveau a récupéré tout ce que j'ai dans ma tête qui correspond à la question que vous m'avez posée. Et puis, il a fait des phrases. C'est mon cerveau qui, tout seul, a fait des phrases pour vous dire ce que j'ai à dire. Et c'est normal, d'ailleurs, parce que, voilà, si chaque fois qu'on... Et puis, dans les aspects moteurs, c'est pareil. Quand vous allez conduire, quand vous descendez l'escalier, vous dites, tiens, je vais pas mettre mon pied là. Et le cerveau s'arrange pour que votre pied soit là. Et puis, voilà. Donc, au total... finalement, on croit être pilote de son cerveau, mais en fait, je crois que c'est l'inverse, c'est notre cerveau qui nous pilote. Voilà.
Mais comme nous sommes notre cerveau, tout ça,
voilà. Voilà. Et comme
une mise en abîme.
Exactement, ouais. Comme moi, je suis ce qu'est mon cerveau, et mon cerveau est moi, et donc c'est quand même moi qui pilote. Mais voilà, c'est pas un effort conscient pour faire toutes ces fonctions. Ouais.
Il n'en reste pas moins que même si nous fonctionnons avec beaucoup d'automatisme et qu'il y a des mises en pilotage automatique, en quelque sorte,
pour
une autre analogie, le principe de responsabilité est quand même là, à titre individuel et à titre collectif. Alors dans cette société de l'information ou de la communication permanente, quels seraient les conseils que vous donneriez à nos auditeurs pour... en tirer le meilleur, éviter le pire.
Dans ce nouveau système de communication, oui.
Oui, dans cette société qui baigne dans la communication permanente.
Ben oui, ben, je ne sais pas, il faut prendre du temps, je crois, qu'il faut de temps en temps arrêter de se connecter et réfléchir. Quoi. Je crois que c'est, et justement, réfléchir de manière consciente, c'est-à-dire prendre du temps, prendre vraiment du temps. Et d'ailleurs, on le voit, hein, on le voit tous ces gens qui tweetent, moi je ne tweete pas, et qui tweetent, ils tweetent plus vite qu'ils ne pensent, souvent. Et d'ailleurs, le gars, il fait un tweet, après on lui dit, mais attendez, c'est incroyable ce que vous avez écrit là, et il dit, ah ben je m'excuse, oui, j'ai pas réfléchi, il tweete plus vite qu'il pense, quoi. C'est vrai, penser, ça prend du temps, comme on l'a dit, penser consciemment prend du temps, et eux, finalement, le poussent. Peut-être que voilà, c'est le pouce qui va plus vite qu'autre chose. Et du coup, il tweet et après, il se dit, ah, mince, j'aurais pas dû tweeter ça. Mais bon, on a le temps. Et on a le temps, prenez votre temps. Et voilà. Et donc, moi, je donnerais conseil, c'est effectivement lire. Parce que lire, ça prend du temps. Donc, quand on lit, quand même, alors on peut lire sur Internet, hein, sur les liseuses, on peut lire. Mais quand même, c'est pas des petits tweets, voilà. Quand on lit...
Et on peut lire sur Internet, mais il faut couper sa messagerie, hein, si j'ai bien compris.
Il faut couper sa messagerie, voilà. Et puis, c'est plutôt sur des liseuses, parce que sur Internet, on a des tas de publicités qui arrivent, des choses qui arrivent, parce qu'ils vous suivent. Hein, donc, voilà. Si vous avez commandé une chambre d'hôtel, tout d'un coup, tous les hôtels arrivent. Pendant que vous lisez quelque chose de sérieux, ça vous trouble. Donc voilà, il faut essayer. Bon, c'est pas évident d'ailleurs. Hein.
Donc finalement, pour sauver notre cerveau, lui maintenir ses capacités de se former par la communication et bien communiquer, rien de tel que les outils les plus archaïques, hein, à l'ère de l'information.
Oui, mais enfin, bien sûr, ben oui. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on ne peut pas s'en passer non plus. Quoi. Donc voilà, il faut vivre avec son temps, mais être conscient que...
Vous avez dit, on ne peut pas s'en passer non plus. D'ailleurs, vous consacrez d'assez larges passages On allait presque oublier le sujet, vous voyez, hein, on se laisse entraîner par le jeu des questions, pas sur l'addiction à ce type d'outil, et qui peut se comparer à d'autres types d'addictions, car vous nous expliquez qu'il répond au même principe qui est celui du plaisir. Voilà. Expliquez-nous cela, et ça nous permettra peut-être de prendre encore davantage de recul sur,
sur tout cela. Le principe de plaisir, alors vous savez que dans notre cerveau, encore une fois, il y a des systèmes qui sont des systèmes dédiés, des neurotransmetteurs, des réseaux neuronaux qui sont dédiés à détecter toute situation qui nous font plaisir. Que ce soit situation intellectuelle, mais aussi nourriture, plaisir sexuel, tout plaisir va activer ces systèmes. D'accord ? Drogue d'addiction, vont activer ces systèmes. Et à partir du moment où ces systèmes sont activés, bien sûr, quelque chose qui vous a fait plaisir, vous avez tendance à le refaire. Et si vous pouvez le refaire de manière immédiate, plus ça va vite, plus ça devient addictif. Parce que vous avez un plaisir, vous pouvez le reproduire sur demande immédiatement. Si c'est un plaisir qui résulte, par exemple, d'une fabrication d'un objet, eh bien, il y aura toute la fabrication d'un objet, vous aurez le plaisir d'avoir fait l'objet, ce sera un vrai plaisir, etc. Mais si c'est un plaisir, par exemple, drogue d'abus, que vous pouvez reproduire, etc., à partir du moment où vous pouvez reproduire sur commande et très rapidement, ça devient une addiction, puisque c'est une boucle. Plaisir, reconsommation, plaisir, reconsommation. Effectivement, les téléphones portables, Internet, etc., sont des types de commissions qui font plaisir, puisque, bon, par définition, comme je l'ai dit au début de l'émission, si on ne faisait pas plaisir, et ça a été mesuré d'ailleurs, on a vu que l'interaction avec ses congénères active ces plaisirs, ces systèmes de plaisir. Et à ce moment-là, bon, effectivement, une certaine addiction peut survenir. De la même manière qu'une addiction à un produit illicite, etc. Et d'ailleurs, il y a eu 15 jours, je crois, l'OMS veut mettre comme dans l'addiction aux jeux vidéo, qui est, sur certaines jeunes, une vraie addiction. C'est-à-dire, addiction, répétition de ce type de pratique qui donne du plaisir, etc., mais qui entraîne aussi, bien sûr, des effets délétères. On ne fait plus que ça. Bon, certains, même au Japon, ont dû être transportés à l'hôpital parce qu'ils ne mangeaient plus, etc. Donc, effets délétères. Et on fait ce qui fait plaisir, sachant bien que c'est délétère. Donc ça, c'est la vraie addiction. Et on ne peut plus s'en passer. Certains qui fument sont dans ce type de reproduction. Donc ça, c'est un vrai problème. Et effectivement, on peut imaginer que ça peut être une vraie addiction, ce type de communication excessive. Hein. Ça peut être une vraie addiction. Voilà. Et juste pour terminer, je ne sais pas si on a encore quelques minutes, mais bon, j'ai aussi consacré un chapitre, enfin, en tout cas quelques pages, au fait que l'absence de communication, et là, est très, très dangereuse. D'accord ? Si un être isolé peut devenir carrément fou. Hein, et donc la littérature regorge d'exemples, hein, ne serait-ce que Robinson Crusoe, donc dans Robinson et la vie sauvage de Michel Tournier, il devient, la description, c'est la description d'un schizophrène. Il a des hallucinations, il perd son identité, il se roule dans la fange avec les pécaris, il perd totalement son moi. Bon, il y a le joueur d'échecs aussi, qui était un très bel exemple. Et puis, les terroristes ou autres prisonniers qu'on met à l'isolement et qui ont des problèmes graves psychiatriques. Et d'ailleurs, Salam Adeslam, là, le terroriste qui est à l'isolement, il y a un article récent où la chancellerie avait un peu peur que finalement le procès ne se passe pas dans les meilleures conditions, parce que justement pour des problèmes de perte de raison, quoi. Bon. Donc l'isolement total, et chez le rat, nous, on a fait des expériences, si on isole le rat après le sevrage, là, il y a aussi des problèmes de développement cognitif. Donc, parce que bon, c'est normal, puisque dans le fond, comme on a dit, le cerveau se construit par la communication. Si on supprime toute communication, même chez l'adulte, des problèmes psychiatriques peuvent survenir.
Car nous sommes des êtres sociaux.
Voilà.
Pas seulement de réseaux sociaux, mais des êtres sociaux. Ça,
exactement.
C'est certain. Oui. Mais écoutez, je propose à nos auditeurs d'approfondir ces réflexions sur la communication en se plongeant dans votre ouvrage, en prenant le temps de le lire sur une liseuse ou en édition papier, mais en tout cas en s'extrayant des distractions extérieures pendant les quelques petites heures que cela nécessite. Je précise que c'est un ouvrage tout à fait accessible et passionnant, qui permet un changement de perspective sur ce paradigme de la communication si envahissante et délectable en même temps. Aujourd'hui, il s'agit donc de La communication du vivant par Joël Bockart aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, monsieur.
Merci. Thank you.